Bienvenue aux artistes pour les rencontres public artistes et bienvenue à notre petit public. Il faut reconnaître que cette année c'est une catastrophe, il n'y a personne aux rencontres publiques et donc tout ça perd un petit peu de sens. L'année on va envisager les choses, on fera un petit bilan, soit on le travaillera autrement l'année prochaine, je sais pas, on verra. À discuter. Ça nous empêche pas de discuter un petit peu entre nous. Alors aujourd'hui, à ma gauche, la compagnie Morozov pour Eppure si muove, et à ma droite, le GDRA pour Nour. Donc on va commencer peut-être avec la compagnie Morozov, puisqu'ils étaient là à l'heure. Alors je vous ai vu cet après-midi, donc c'est juste un tout petit peu frais pour moi, du coup il n'y a pas eu trop de temps, et puis il y a eu 50 rendez-vous entre temps. Déjà dans notre petit public, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, la compagnie Morozov, non. Personne ne vous a vu ? Ah si, toi. D'accord. Donc éventuellement, tu peux intervenir, parce que normalement, c'est l'objectif. Donc un grand plan vertical, avec des trappes un peu partout. Je vais faire comme je fais d'habitude quand je suis un peu perdu, que j'ai rien préparé et que il y a pas de public. Donc je vais donner à voir un peu, je vais rendre compte de ce que j'ai vu. Un grand plan vertical, donc avec des trappes et puis de façon presque organique comme ça, des bras, des mains qui sortent petit à petit, soit assez rapidement, beaucoup de surprises, on dirait qu'il est très chargé. On dirait qu'il y a beaucoup de choses derrière. Quand je dis organique, c'est que ça pourrait presque être des plantes, presque comme un désir. On ne sait pas trop s'ils veulent se rencontrer ou pas. Ça tâtonne dans le vide. C'est assez sensuel, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, une trappe s'ouvre et puis on en voit un peu plus, des bouts de corps. Un tronc, des jambes, quelqu'un d'autre assis plus loin. Tout ça dans un rythme très travaillé. Et peu à peu, la rencontre va se faire sur cette paroi. Alors, est-ce que c'est au-dessus du vide ? Je ne sais pas, mais une rencontre qui va se faire très doucement, ça tâtonne, on va dire. C'est peut-être ce qu'annoncent les mains du départ, mais ça tâtonne pour se retrouver. Et il y a comme une difficulté de se rencontrer. Je vous livre, moi, ce que j'ai vu, hein, comme ça, comme une difficulté de se rencontrer. Et avec évidemment, plein de surprises, puisqu'on n'est pas les pieds sur terre, mais on est sur cette verticalité. Mais c'est pas non plus une montagne, c'est une page. Voilà, c'est une page dans l'espace où les choses s'écrivent. Et puis, tous ces petits jeux entre vous, comme ça, avec des accroches à deux, des moments où vous vous retrouvez brièvement, vous vous séparez rapidement, vous redisparaissez, vous vous retrouvez. Et pour finir tout ce temps-là, il y a un temps presque théâtral. Ça pourrait être dans une salle d'attente ou ça pourrait être dans une gare, je sais pas. Un endroit tout à fait anonyme en tout cas, et là il y a plus cet effort là de se toucher, de s'attraper, de s'éviter, de disparaître. Les choses d'un coup se calment. C'est un très joli moment, presque de cinéma pour moi, avec très très clairement un couple, parce qu'on n'est pas sûr avant. Hein, j'ai oublié de dire ça. On voit bien que un des personnages est féminin, même si je te connais, tu vois, je sais bien que tu étais Bianca Luz, mais ça pourrait être un jeune homme aussi. Et plus ça va, plus sa féminité apparaît. Et puis quand les choses sont tout à fait posées, ils se déshabillent. C'est très joli. Ils prennent le temps de se déshabiller. Donc la rencontre est réellement là. Il y a une intimité. L'espace s'ouvre. Le plan s'ouvre. Et ils vont se retrouver dans une sorte de... Comment dire ça ? Parce que, bon, je sais aussi que c'est de votre spécialité aussi, le cadre aérien, mais ils vont se retrouver dans une sorte d'étreinte beaucoup plus affirmée, beaucoup plus performante, on va dire. Alors, est-ce que, voilà, j'ai raconté tout ça, là, ça, en direct, hein, en faisant l'effort, soudain, de me rappeler de ce que j'ai vu. Et est-ce que c'est un petit peu quelque chose de ce que vous avez raconté?
J'ai rien à rajouter.
Je trouve que
c'est très bien. Non, parce que avec ce spectacle-là, on n'essaye pas de raconter une histoire concrète. L'idée, ce n'est pas que les gens, ils arrivent et ils ont vraiment une histoire qui est la même pour tout le monde, du début à la fin. Mais il y a cette idée-là, là, comment tu l'as raconté, c'était très, très bien, parce que c'est un peu comme nous, on le voit et comme on le ressent aussi. Et voilà, le spectacle, ça traite c'est dans une forme d'allégorie. Qu'est-ce que c'est la rencontre ou pas, et la difficulté de se rencontrer. Et puis ça va dans exactement comme tu as raconté, toute cette tentative de rencontre, jusqu'à ce moment où finalement on touche le sol, mais il n'y a rien de spécial. Mais c'est comme tout d'un coup revenir à cette réalité-là, la dure réalité, tout simplement. Il y a ce temps où on laisse notre peau, on se défait de tout ça. Et là, il y a la réelle rencontre, donc c'est par le biais du cirque réellement, et de notre technique, où là, on ne peut pas tricher. On ne peut pas du tout tricher, et ça se fait naturellement et sans artifice. Ça se fait, voilà. C'est vraiment la technique qui existe, la voltige. Donc ça, c'est un peu cette allégorie-là qui traite le spectacle, donc c'était très bien raconté.
Alors la nouveauté aussi, c'est que là, donc il y a ce cube, ce grand cube, c'est une sorte d'agrès pour vous. Donc moi, je vous avais déjà vu sur le cadre aérien, et là, donc j'imagine que ça a été une volonté aussi, de par votre discipline, de travailler, d'inventer ce nouvel agrès. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, parce que je sais très bien que quand c'est une sorte d'agrès, là, hein, votre travail sur la paroi verticale avec les trappes, et je sais bien que là on tâtonne toujours beaucoup quand on fait ce genre de travail, quoi. C'est-à-dire on dit pas, ou peut-être que si, d'ailleurs j'en sais rien, là il va y avoir une trappe de telle grandeur, là il va y avoir une trappe comme ça, et là, c'est-à-dire qu'il y en a du contreplaqué qui y passe, ou alors vous avez décidé d'entrée de jeu de dire là il y aura une trappe comme ça, une trappe comme ceci, une trappe comme là, et on va voir ce qui se passe. Comment ça s'est passé, ça, la construction de l'objet?
En fait, on avait envie de cacher un peu le cadre, de transformer un peu le cadre coréen, qui est une discipline, qui a une structure qui impose beaucoup, qui te montre déjà tout de suite quand tu la vois, tu sais que c'est ça. Et puis les tapis et tout ça. Et on avait envie de transformer un peu ça dans une scène. Et on a pensé au mur. Mais après, les trappes, les trous, les chaises, les portes, tout ça, on ne savait pas ce qu'on allait mettre. Donc, on a fait une première période de résidence, de dessiner vraiment tout simplement ce qu'on voulait faire. Et puis après, le constructeur, Magnus Yadis, qui a construit la structure, il a fait un mur plat où il n'y avait rien. Et là-dessus, on a travaillé 15 jours pour voir ce qu'on avait envie de rajouter à ce mur-là. Les ouvertures, où elles allaient être par rapport aux tailles, par rapport à ce qu'on voulait chercher, tout ça. Et après, ça s'est fait une troisième période de résidence avec la structure où il y avait déjà la plupart des trucs, des trous, de trappes et machin. Et après, une quatrième pour peaufiner tous les détails.
Vous avez modifié des trappes par la suite ou
Non, on n'a pas,
une,
on a pas
une
modifié.
Une fois que le choix a été fait.
Il y a eu plusieurs périodes où on a modifié des choses, où on disait voilà, ça c'est mieux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la technique qu'on fait de l'acrobatie aérienne, c'est du cadre coréen. Et c'est toujours un agrès qui impose un peu. Donc nous, déjà, dans l'autre spectacle, on travaillait avec une structure autonome. Là, l'envie c'était d'aller encore plus loin avec le fait que ça soit autonome, mais qu'il puisse tourner. Là, c'est le cas. Et il n'a pas d'aubanage devant. Donc on voulait encore aller plus loin dans cette recherche. Et puis, comment transformer l'agrès lui-même de cadre coréen dans une scénographie qui cachait, dans un premier moment, l'agrès disparaissait dans une scénographie pour apparaître après au cœur de cela. Donc, et après, oui, comme disait Blanca Luz, il y a eu plusieurs périodes dans lesquelles on avait d'abord un plan lisse et on a commencé à voir les besoins et les nécessités. Et dire, ah, tiens, on voulait ça, on voulait ceci, et ça se développait au fur et à mesure. Au bout d'un moment, on a dit, ok, voilà, maintenant, on a ça, et on fait toute la recherche, le langage physique, avec cela. Et Après, ça a bougé des petites choses, mais pas grand-chose.
Alors, on sait qu'on se nourrit toujours de plein de choses, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'influence les uns les autres. Juste pour savoir, parce qu'il y a des procédés un petit peu comme ça dans le travail de Martin Zimmermann, et je sais que vous avez travaillé longtemps avec eux, est-ce que ça vous a influencé un peu sur le jeu des trappes? Peut-être que dans le dernier, il y avait moins de trappes, ceci dit, celui que vous avez travaillé quand même. Je ne l'ai pas vu, hein.
Il n'y avait pas vu. Pas vraiment de trappes. De toute façon, oui, pour nous, je pense que comme interprète, le parcours qu'on a fait comme interprète, ça nous sert à se nourrir de plusieurs choses, pas forcément de la manière comme les metteurs en scène le font, mais je pense que en travaillant avec d'autres aussi, on avance sur nos envies, l'envie de d'auteur que nous on est aussi comme créateur. Donc la compagnie, on a passé, c'est le troisième spectacle de la compagnie Morozov, et on a collaboré avec Guy Alouchri, on a fait aussi, bon, on était aussi avec le Cheptel Alekoum, avec la fanfare Serkatsuka, on a été avec donc Martin Zimmermann, et tout ça, ça a servi à développer notre univers à nous. Et ce que c'est une évidence avec Martin, c'est que il y a vraiment, et Dimitri, voilà, Martin et Dimitri, tous les deux, ils travaillent vraiment avec une recherche scénographique. Et on avait envie vraiment de continuer, en fait, ça nous, on avait déjà cette envie-là, mais de continuer, c'est vrai que ça nous influence d'aller encore plus loin, parce que ce que j'appelle d'ailleurs, même c'est pas l'influence, mais c'est une espèce de frustration positive qu'il y a dans une création, parce qu'avec eux on avait envie d'aller plus loin avec ça, et mais pour le spectacle Père Opis, on n'a pas été où justement nous on espérait aller avec la recherche scénographique. Et donc justement, voilà, cette frustration, ça nous amène
à... Tu réponds presque à la question que je voulais te poser, parce que bon, vous avez une qualité technique au cadre aérien important, donc vous pouvez souvent, vous devez être assez souvent demandé, vous pourriez travailler dans différents cadres, et donc c'est justement la question, c'était vraiment à un moment donné, cette compagnie Morozov, tu vois, d'où vous vient ces désirs de monter vous-même des choses, vous pourriez très bien rester simplement artiste, mais il y a une volonté permanente d'être auteur, quoi. Après être resté pendant presque un an avec Martin Zimmermann et Dimitri Perrault, du coup vous avez eu besoin, donc du coup, d'aller encore plus loin dans votre travail à l'intérieur de l'expérience que vous avez eue avec Zimmermann, quoi.
Oui.
Oui, en fait, vous y avez déjà répondu.
Ouais, ouais. Non, mais en fait, on a jamais arrêté notre travail. On a commencé d'abord par le travail de la compagnie Morozov. On avait fait Jeune Talent Cirque en 2006. Bah, d'ailleurs, en même temps que GRDA, on était dans les mêmes lauréats. Et nous, on avait monté donc le premier spectacle. Et en même temps, on a commencé une création avec Guy Alouchri. On a tourné les deux projets. Et avec Zimmermann et De Perrault, on a commencé à travailler en 2008. Et à ce moment-là, on a monté le deuxième spectacle et on tournait les deux. Et sauf que la tournée avec Opéra Opis, comme elle était importante, donc l'autre spectacle, on tournait très peu, ponctuellement. Mais à la fin de la tournée, parce qu'en fait, c'est 4 ans qu'on a passé avec eux, et à la fin, on a commencé la création de notre troisième spectacle. Et là, maintenant, on est pas sur d'autres projets vraiment, on est vraiment resté concentré sur la tournée des deux spectacles de la compagnie Morozov, mais toujours avec l'envie de développer notre univers à nous, et en même temps aller collaborer avec d'autres artistes. C'est une manière, voilà, un équilibre qui nous semble bien comme ça.
Ça s'est fait parallèlement, en fait, une chose nourrissait l'autre et puis vice versa, et là on a envie vraiment de se donner le temps, parce que...
Et est-ce que après avoir travaillé avec Zimmermann, est-ce que le cadre aérien vous manquait pas aussi?
La technique, tu
veux
dire?
La technique, ben oui, parce que vu ce que ça représente comme travail au quotidien pour maintenir le niveau, est-ce qu'à un moment donné aussi il n'y a pas une frustration?
Mais c'est une question. Dans le spectacle de Martin, il y avait du cadre coréen aussi.
Ah oui, d'accord, je l'ai pas vu.
Voilà, en fait, il était mis en scène différemment. Mais il y avait un travail avec le cadre coréen.
Alors, je vais poser la question autrement. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez envisager de faire des choses sans le cadre coréen? Ou bien, est-ce que, parce que vous sentez que vous êtes au top niveau, je vais dire, de votre technique, vous dites là, on peut pas le laisser, on peut pas l'abandonner?
Souvent, on a du mal à lâcher la technique, parce qu'on aime ça, et parce qu'on sait que c'est une technique qui demande une régularité, et que si on l'a pas, on a beaucoup de mal à la faire bien, à pas se blesser. Donc on a du mal à dire à se dire non, on le fait pas. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Si on fait un projet où on trouve qu'on a notre place ailleurs que dans cette technique-là, on peut tout à fait envisager de pas le faire. Mais pour l'instant, on l'a toujours fait dans tous les projets qu'on a fait.
Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a autre chose. Jusqu'à maintenant, il y avait l'entre-volonté d'avoir tout le temps de travail de cadres coréens. Parce qu'il y a aussi quelque chose que, au fur et à mesure du temps, le marché du cirque contemporain, il se façonne d'une certaine manière où on abandonne beaucoup les agrès. On fait de moins en moins de choses de cirque, des scénographies minimalistes, peu de choses, des jongleurs, du main à main. Voilà. Je critique pas du tout cela, mais je connais, on voit de temps en temps les gens qui ils s'intéressent plus. C'est déjà trop grand quand il y a une structure, il y a des tapis, il y a des choses. Ben moi justement, j'ai toujours eu envie de défendre le contraire, de dire voilà, ça aussi c'est du cirque, et c'est important que ça existe, qu'il y ait sa place. Et qui en mettent un trampoline sur scène, qui en mettent un cadre. Alors nous, certes, justement, ce marché-là, ça nous a aussi façonné un petit peu, parce qu'on a fait une recherche pour avoir une structure autonome, pour aussi avoir des tapis gonflables. Donc on n'a plus de gros tapis. C'est voilà des choses qui puissent apparaître, disparaître, déplacer facilement. Mais on défend aussi le fait que ça existe, qu'on a envie d'avoir ça sur scène. Et pas de dire non, voilà, on enlève tout ça. Donc c'est une technique, on aime bien. Bon, nous, ce qu'on fait de l'acrobatie aérienne. Donc déjà, on n'est pas dans le grand volant, on est déjà plus petit, mais on avait envie de tout le temps pouvoir imposer ça. Après, comme artiste, c'est pas seulement ça qu'on fait. Donc je pense que là, je dirais qu'on est arrivé aussi à un moment de notre travail qu'on pourrait envisager de faire des projets sans le cadre coréen. Mais jusqu'à maintenant, c'était quand même voilà, aussi l'envie, il était vraiment là de défendre ça.
Mais même, on peut dire que vous avez pas mal de chance, parce qu'on voit beaucoup de trapézistes ballants, par exemple, et je ne parle pas des volants. C'est une difficulté énorme maintenant pour exister dans ce qu'on appelle le nouveau cirque, parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'accrochage dans beaucoup de théâtres, sur du ballant, hein, je parle.
Je ne sais pas si c'est des problèmes d'accrochage, mais il y a vraiment quelque chose que... Ouais, moi, je dirais plutôt ça. Franchement, j'ai l'impression... Moi, en 97, quand je suis arrivé en France... On voyait beaucoup plus non seulement de théâtre de rue, des projets énormes, des trucs pharaoniques et du cirque. Il y avait plus de chapiteaux, il y avait des projets où les gens, on s'en foutait un peu d'avoir les structures des camions, de semi-remorques, parce que voilà, c'était ça aussi. Et au fur et à mesure, le cirque contemporain, il s'est développé énormément. Il y avait de plus en plus de théâtres qui s'intéressaient à programmer, donc tant mieux. Mais, mais mon théâtre, il est plus petit, donc voilà. Donc on commençait, les artistes, à monter des projets, pour que ça puisse tourner dans ce réseau-là, et les élèves des écoles du cirque de choisir qu'est-ce qu'ils allaient faire en fonction de cela aussi, du marché, et pas le contraire. Et pas que les artistes aient façonné aussi le marché, de dire non, voilà, nous, on fait du cirque, donc il y a des agrès, il y en a des choses, il y a des structures, et c'est comme ça. Et c'est beau, et ça mérite de l'effort de tout le monde.
Voilà. Mais comme quoi il faut, et certains le font encore, comme c'est le cas d'ailleurs ici à Circuit, il faut défendre absolument les chapiteaux, parce que c'est l'espace par excellence pour l'accrochage et pour les agrès qui demandent des grosses structures. Quoi. Bien. On a dit quelque chose de très important, là.
Finalement.
Écoutez, je sais pas, je vais peut-être vous laisser. Hein. Je pense qu'à moins qu'il y ait dans le public, mais comme vous n'avez pas été vu, manifestement, des 4-5 personnes qui sont là. En tout cas, merci beaucoup, la compagnie Morozov.
Bah, merci à vous.
Ah, voilà.
Il y a une question.
J'oublie toujours de laisser un petit temps.
Non, je vais pas dire grand-chose, mais parce que j'ai pas vu le spectacle, mais je vais le voir. Voilà, mais là, ce que tu as dit vers la fin m'a beaucoup intéressé sur ce problème justement de la place du cirque. Et alors c'est intéressant après en plus de voir après la suite. Parce que moi cette année sur la programmation de Circa, j'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai vu pour le moment, justement que le cirque est un peu plus absent cette année. Voilà, donc... je trouve que c'était intéressant ce que tu dis, et je crois qu'il faut effectivement que le cirque ait toujours sa place et soit bien présent, même si voilà il y a d'autres choses, tout ça. Mais enfin voilà, ce problème là entre cirque ou je ne sais pas quoi, voilà, oui, mais on pourra en parler. Voilà, c'est problème de partage, de voilà. Voilà, mais j'ai des choses à dire sur la suite.
Merci beaucoup. On va donc passer au GDRA. Ça veut dire groupe de recherche artistique. Non, mais je n'étais pas sûr, hein. Je n'étais pas sûr. Alors, donc, là, il y a Nejma et Julien. Alors, comment attaquer ça, ce chantier? Comment attaquer ce chantier? C'est un chantier qui est mis en scène. Je suis juste là, si je dis ça.
Oui, c'était juste.
Peut-être c'est un chantier qui met en scène et on va suivre le destin fictif réel d'un personnage qui s'appelle Nour. Je dis personnage puisqu'il c'est aussi fictif, hein. Mais vous êtes appuyé. Alors c'est un chantier parce qu'il y a énormément de recherches, à savoir effectivement quand on s'intéresse au parcours d'une personne. C'est le bon mot. Au parcours d'une personne, un romancier, un scénariste, effectivement, il va faire ce qu'on appelle une enquête, s'il est un tant soit peu sérieux et s'il veut de la matière. Et au théâtre, c'est pareil, évidemment. Et chez vous, cette matière-là, elle est exposée. C'est en ça que je dis que c'est un chantier, c'est-à-dire que à la fois on va suivre le parcours de Nour El Yacoubi et à la fois on va voir les éléments qui ont permis de créer cette fiction, puisque c'est en est une aussi. Vous êtes tous d'horizons très différents. Et néanmoins, j'imagine qu'il y a une certaine complicité entre vous, puisque je sais que le GDRA existe depuis longtemps. Comment aborder la chose? C'est-à-dire, je sais qu'il y a Christophe Rulz.
Hein, Christophe Ruy.
Ruy, pardon, Ruy.
Puisqu'en occitan, on dit le L et le H.
Oui.
Collé, on dit Ruy.
Oui. Oui, il est très occitan. Il y a quelques clins d'œil, d'ailleurs, à l'intérieur du spectacle.
Occitaniste, je ne sais pas, mais en tout cas, il est de culture occitane. Ses parents parlaient l'occitan.
Oui, ça tombe bien. Moi, d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, qui suis absolument pas sociologue, j'ai un parcours qui correspond un peu plus au personnage de Nour, d'ailleurs, sur bien des points, en tant que migrant occitan. Donc, c'est pas intéressant pour ça.
En fait, tout le spectacle de Nour, t'as toutes ces questions-là qui l'apprennent. Forme dans une migration plus grande que Nour, qui est né entre l'Algérie et le Maroc, enfin non, qui est né en France mais c'est pas, qui vient d'origine algéro-marocaine. En fait, tout ça vient de questionnements que Christophe a depuis longtemps,
depuis
que lui vient du Rouergue, du Quercy Rouergue, mais ses parents, du coup, parlaient l'occitan, une autre langue, donc toutes ces questions de transmission, de déplacement, de voyage aussi. On dit souvent qu'il n'y a pas de finalement, il n'y a pas de petit voyage. Le déplacement que les parents de Christophe, occitanophones, locuteurs, naturels, ont fait vers le français, vers plus ou moins dans la joie et plus ou moins dans la douleur. Ce voyage-là, qui était aussi géographique, puisqu'ils sont partis d'un petit endroit qui s'appelle le Mas de la Combe, ils sont allés vers Rodez, enfin, Christophe en parlait mieux que moi, mais c'est quand même toutes ces questions biographiques qu'il taraude depuis très longtemps, qui ont fait qu'il est allé probablement vers la sociologie, vers l'anthropologie, et que maintenant ça transparaît dans l'écriture du GDRA.
D'accord.
Et donc finalement, l'histoire de Nour, même si là elle prend forme dans cette famille-là, pour Christophe, en tout cas, elle a commencé depuis dans sa propre famille, et donc dans des échelles beaucoup moins grandes et très différentes.
Oui, je pourrais faire presque un lien, mais quand même, la chose est un peu différente. C'est quand même un occitaniste. Je pourrais avoir le même rapport, même peut-être plus intéressant. Même pour lui, je pourrais être un cas très intéressant.
Mais c'est sûr.
À savoir qu'en tant que du Nord Paris, ma famille était effectivement occitane, c'est-à-dire du Gers, là, et que chez moi, on parlait l'occitan. Et d'ailleurs, on ne disait pas l'occitan du tout à l'époque. On a dit l'occitan à partir des années 80. Alors, à l'époque, on disait le patois.
Le patois.
Voilà. Et puis que ça a vaguement disparu petit à petit. et que ça m'a, moi, posé aucun problème. Hein. Mais néanmoins, ça me permettait, effectivement, vis-à-vis de tous les copains qui étaient portugais, algériens, juifs, marocains, ça me, j'avais l'impression, quand j'allais chez eux et qu'il y avait quelques mots comme ça, d'une autre langue, j'ai l'impression que j'étais un peu chez moi aussi, quoi. On vivait le même truc, quoi. Ça, c'est... Alors oui, revenons sur cette histoire. Vous êtes rencontrés comment ?
Le général ?
Oui.
On s'est rencontrés au...
Parce que, juste pourquoi je pose la question ? Parce que quand on lit la bio de Christophe, ethnologue, anthropologue, et toi circassien, acteur délirant, Sébastien, je vais le qualifier comme ça.
On s'est rencontrés du coup. Enfin oui, a priori, tu veux dire que ça n'avait pas forcément de
Oui, c'est ça. Ou... Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas rencontrés en fac, quoi, autrement
non,
dit.
Non, mais alors, il se trouve que Christophe, non seulement il a tout un parcours dans les sciences humaines, mais il est aussi, depuis qu'il est tout petit, il fait de la musique underground, la musique, et après devenu underground, comme on dit, du rock, du jazz, du punk jazz, du chant. Et du coup, on s'est rencontrés, Christophe et moi, et Sébastien, autour de nos pratiques artistiques plutôt. Et autour d'un projet qui a joué ici aussi, que c'était Comme Neige, je crois. On a joué au TNT, mais c'était en lien avec Circa, un truc comme ça.
D'accord.
C'était un projet autour de l'année du cirque en 2001 ou 2002. Après, qui est devenu un autre nom, c'est devenu Au Carré.
Ah oui, d'accord.
Et en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Même si Sébastien, moi, je le connaissais depuis longtemps, puisqu'on se connaissait depuis le Lido, puisqu'on était au Lido à l'école de cirque de Toulouse ensemble, mais il y a de ça quelques années. Et puis de là, une amitié est née, comme on dit. Et puis et pas pour rien, parce qu'on avait plein d'affinités, d'affinités, plein.
D'accord.
C'est là que j'ai découvert l'anthropologie, ces questionnements-là, parce que Christophe en parlait comme il parle des choses qui le passionnent. Donc, et de là, on a commencé à réfléchir à Singularité Ordinaire, le début de Singularité Ordinaire, où on était au début axé beaucoup plus vers ce monde paysan qui était très cher à Christophe, pour tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, qui était aussi des choses qui me touchait, puisque moi je suis né à la campagne, dans la campagne toulousaine aussi, et j'avais depuis longtemps envie de parler de ça, des gens avec qui j'ai grandi finalement. Et donc c'est de là, cette amorce qui a fait qu'on a commencé Singularité Ordinaire, et puis après tous les questionnements justement de Chris sont venus renforcer, étayer et construire le scénario de Singularité
D'accord.
Ordinaire.
Ah mais ça c'est intéressant. Que ça soit un point commun entre vous, le monde rural, comme on dit, hein, la campagne, comme tu dis mieux.
Oui, pour moi, c'est ça. Pour Chris, c'est vraiment ses parents, donc il y a encore autre chose.
Oui. Mais parce que même comme c'était un peu le cas aussi dans le premier spectacle du GDRA, il y a un attrait quand même justement pour tout ce qui est brassage culturel, pour toutes les difficultés qui peuvent exister, à exister dans des villes, dans ce qu'on appelle les milieux urbains. Et votre rencontre, elle est sur justement la racine de la campagne et tout. Donc je trouve ça très très intéressant. C'est presque plus un regard sociologue, mais c'est un regard rural sur l'urbanité, quoi.
Parce que c'est dans Singularité Ordinaire, on parle à la fois de ce monde rural, à la fois de Wilfried Piolet qui évolue dans un monde urbain, citadin, dans un monde de l'art plus reconnu qu'Arthur Genibre. Voilà, on fait un peu, on parle des anciens spectacles. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais
quels sont ceux d'ailleurs ici qui ont vu Nour ? D'accord. Ok.
Et ça a démarré par la ruralité ou la campagne. Et ces questions de langue aussi qui étaient déjà présentes, puisque Arthur Genibre, dans le spectacle Singularité Ordinaire, parle pas toi, et en sous-titre. Et on a été invité au Festival d'Avignon. En 64 ans de Festival d'Avignon, il n'y avait pas eu une seule fois du patois, quand même, qui est une langue. Qui sonnait dans tous les spectacles qu'il y avait pu y avoir. Et là, c'est fait.
D'accord. Alors, on parlait cirque tout à l'heure. On va revenir, hein. On bifurque tout ça. Il y a un trampoline.
C'est du cirque ou pas?
Alors, public. Le public a la parole. À votre avis, c'est du cirque ou pas?
Non. Bon. Non, mais
bien sûr.
Voilà, je sais que le trampoline est un agrès de cirque, mais je l'ai pas senti dans le spectacle comme du cirque. C'est-à-dire, alors j'ai eu très 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 peur au début, je dois dire. Je me suis dit aïe aïe aïe, parce que c'était pas. J'ai eu peur parce que j'ai vu du texte. Et puis, avec des trous à remplir par un peu de gestuel, et je me suis dit, c'est mal barré, voilà. Et puis, j'en suis pas resté à ce niveau-là. C'est-à-dire que le texte, de toute façon, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé l'histoire aussi très captivante. Et j'ai trouvé que tout le jeu, finalement, sur un texte qui, au départ, était un peu... entre guillemets intellectuel, enfin bon, voilà, universitaire, voilà. Et que petit à petit, toutes les actions, toute la motricité, tout ça donnait corps à l'histoire. Et donc j'ai aimé, hein, j'ai bien aimé le spectacle, même si j'ai eu peur au début. Mais n'en reste, voilà. Alors la question que moi je me pose, voilà, est-ce que je connais Circa depuis pas mal de temps, hein, je suis pas surpris, mais j'arrive dans un festival de cirque, voilà. Donc est-ce qu'un spectacle comme ça, voilà, se justifie dans un festival de cirque, c'est la question que je me pose. Parce que pour moi le trampoline c'est pas du cirque, voilà, mais c'est par contre un élément qui va faire vivre l'histoire, j'ai trouvé des choses en plus magnifiques, là, quand il y a la projection après, là, des personnages qui racontent leur vie, et puis vous deux qui montez au mur, montez sur les personnages, cette façon de rentrer.
Alors, c'est,
de
pas faire... c'est du cirque, ça?
Pour moi, c'est pas du cirque.
Voilà. Alors, autre question. Alors, je vous pose une question. Maintenant, on pose des questions au public. Non. Est-ce que vous pouvez envisager qu'on demande à des comédiens de faire ça?
Voilà, mais c'est pas du théâtre non plus.
Voilà. Alors, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas non plus de la danse, et ce n'est pas tout à fait du cirque. Sauf qu'il s'avère que, y a quand même à l'intérieur, voire deux membres du cirque, déjà deux clairement du cirque, issus du cirque totalement. Totalement issus du cirque. Hein. Parcours, ils ont les diplômes, les bons diplômes, ils ont le truc, hein, formation, nickel. Non, ce que je veux dire, ils ont les reconnus, hein, les officiels. Hein. Il y en a plein des diplômes aujourd'hui, mais ils ont les officiels. D'autre part, il y a Sébastien Barrier qui fricote depuis pas mal d'années avec le cirque, hein, avec humour, on peut dire ça. Tu veux en
parler ? Sébastien, il a été aussi au Lido, il a commencé par le cirque. Après, il est allé vers la parole plus, disons que c'est les mots le précèdent, du coup, au bout d'un moment, il a été pris par la parole, mais il continue à faire du fouet. Enfin bon, et après, juste, ces questions de cirque, franchement, qu'est-ce que c'est que le cirque? Déjà, c'est un gros mot comme ça, c'est un mot un peu fourre-tout. Depuis très longtemps, dans les pistes de cirque, même traditionnelles, on y croise plein de choses très 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 diverses. Donc c'est déjà un mot qui embrasse des disciplines, qui embrasse des animaux, qui embrasse des objets, qui embrasse des nouveaux objets, des créations, des nouveaux agrès, qui embrasse des choses venant de la gymnastique, de peut-être même des arts martiaux, parce qu'il y a des choses qu'on peut retrouver entre les enfin, donc c'est ouais. C'est une chose que moi j'ai jamais c'est un mot hyper ouvert, quoi. Donc moi je peux dire que je viens du cirque, sachant que ce mot-là, je sais pas exactement ce que... Donc je peux dire que je fais de l'acrobatique, je fais du trampoline. On dit ça souvent, on préfère les mots, les verbes d'action. Je fais ces choses-là. À savoir si c'est du cirque, si c'est du théâtre, si c'est de la poésie sonore, si c'est de la vidéo, si c'est... c'est sûrement un peu de tout ça, mais c'est... Donc ces mots-là, ils sont trop fourre-tout pour qu'on... Moi, si on me dit c'est pas du cirque, bon... Sincèrement, je sais même pas, je sais pas trop.
Je répète, le spectacle m'a plu, ça c'est certain, hein, voilà. Alors, et le cirque pour moi c'est ça qui, ta question, la question que tu leur posais tout à l'heure d'ailleurs. en leur disant « Mais est-ce que vous allez abandonner votre agrès ?» voilà. Alors, et c'est presque... Et je trouve qu'il a bien répondu. Il y a presque des fois un complexe à vouloir rester sur, sur des choses plus, plus physiques, plus corporelles, plus, plus techniques, etc. Alors que, en soi, ça peut être aussi un moyen d'expression qui est très, très, très fort, restant sur, sans forcément vouloir aller s'appuyer sur, sur des textes, sur des. Même sur des histoires métaphysiques ou je sais pas trop quoi.
Mais pourquoi voilà. pas aussi.
Mais pourquoi pas aussi, voilà. Mais parfois c'est dangereux d'ailleurs parce que oui. parce que je veux dire, le fait de vouloir absolument à tout prix intellectualiser un petit peu les choses, ça peut être aussi parfois fait à de façon un peu à porte-à-faux, enfin voilà, qui sonne mal, qui sonne faux.
Et tout ça dépend aussi. Je pourrais être d'accord avec ça, hein, mais ça dépend aussi des artistes de cirque. C'est-à-dire que si ben Julien et Nejma, en tant qu'artistes de cirque, à l'intérieur de ça, ben, se trouvent très bien. Après, plus rien ne sonne faux, quoi. Ils sont à leur place.
Et puis, c'est aussi dangereux dans l'autre sens de dire que les choses sont trop intellectuelles. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire aussi, trop intellectuel. C'est un drôle de. Est-ce que. Moi, je trouve pas que ce qu'on fait ce soit trop intellectuel ou. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Non, mais j'ai bien compris que vous avez pas dit ça. Mais c'est aussi dangereux c'est dangereux dans les deux sens. Dire que, que ça l'est pas assez par. Enfin, c'est.
C'est juste une petite nuance. C'est pas, j'ai rien contre les choses intellectuelles, bien au contraire, mais c'est le vouloir, c'est le complexe qui fait qu'on veut intellectualiser des choses qui bon, pourraient se faire. C'est pas non plus une nécessité. Voilà. Mais voilà.
Non, est-ce que je voudrais juste là pour rester. Pour rester juste sur ce petit débat là, mais c'est bien hein, parce qu'on en a parlé un peu là, on y revient avec le GDRA, et le GDRA est l'exemple par excellence, même je dirais, dans la mesure où effectivement il y a quand même tout un vocabulaire universitaire hein, par moment, hein, donc et qui pourrait presque passer devant, mais il s'avère que néanmoins ce sont des artistes du cirque, et tout à l'heure on parlait de recherche, c'est même dans le titre du GDRA, et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a un état d'esprit du cirque aussi, et ça m'étonne pas du tout que c'est de là en soi sur la recherche, parce qu'il y a un rapport aux agrès qui est une recherche permanente. Quand on travaille sur un agrès, quand on l'apprivoise petit à petit, quand par la suite on travaille sur d'autres formes, il y a une particularité, une spécificité au cirque, et qu'on va retrouver à peu près partout. C'est-à-dire qu'un circassien qui fait de la danse, c'est pas vraiment un danseur, dans le sens où il a une autre danse, parce qu'il a une autre recherche. Je sais pas si, et je dis ça, c'est d'autant plus important. Elle va nous en parler après, d'ailleurs. Parce que là, on a une danseuse et hip-hop, circassienne avant tout. Mais ça, il y a un autre fonctionnement chez le circassien qui fait que le cirque aujourd'hui s'ouvre encore plus considérablement qu'on pourrait le croire. D'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup de le nouveau cirque. Je parle du nouveau cirque. Hein, il y a beaucoup d'anciens qui maintenant ne peuvent plus être au top niveau de leur discipline et qui néanmoins vont encore créer des spectacles parce que c'est leur vie. C'est-à-dire qu'à 40 ballets, à un moment donné, ma vie c'est de faire des spectacles et j'ai cette expérience-là et je suis formé pour ça et je sais ce que c'est qu'un rythme, je sais ce que c'est qu'un public et je sais ce que c'est que de travailler, je sais ce que c'est que de construire un spectacle. Mais je n'ai plus ma discipline. Néanmoins, avec tout mon parcours, avec tout ce que je connais, et ben simplement avec une chaise, et on en voit beaucoup maintenant qui arrivent comme ça, avec pas grand-chose, avec un état d'esprit, avec une méthode de travail, je vais aller dans une certaine direction qui ne sera pas celle du danseur, qui ne sera pas celle de l'acteur. Voilà. Et c'est pourquoi les arts du cirque, évidemment que la discipline et la genèse, comme dit Jérôme Thomas, la genèse des arts du cirque, c'est le cirque, point. Hein, mais après, après, ça peut aller absolument dans tous les sens. Et ça, c'est aussi intéressant. Et il faut le préserver parce qu'il y a énormément d'artistes qui arrivent maintenant. Et on espère que ça va créer différentes formes, toutes sortes de choses, qu'on va encore être énormément surpris. Mais alors, Nejma, tu voulais dire quelque chose sur danse et cirque, peut-être,
hein. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Mais je trouve ça, enfin, même si c'est des questions qu'on se pose tout le temps et qu'on se posera toujours, cette question de l'assignation, est-ce que c'est du cirque, est-ce que c'en est pas, et on s'en pose pour des tas d'autres secteurs que le spectacle. Est-ce que je suis espagnol, est-ce que je suis français, est-ce que je suis, enfin, je veux dire, c'est des questions de toute façon qui ont toujours un sens dans la vie partout. Mais ouais, c'est vrai que ce que je retiens du cirque, en fait, c'est, comme disait Christophe, c'est un état d'esprit, en fait. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient de la danse, qui va avoir fait un parcours, je sais pas, de conservatoire, va pas écrire la danse comme un circassien ou comme un comédien l'écrirait. Et pour moi, il y a là aussi l'essence de qu'est-ce que c'est le cirque, c'est l'état d'esprit aussi qui, quel état d'esprit va vers une certaine écriture. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, aujourd'hui. Et ça me pose question aussi, du coup, en général, où je me dis, tiens, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a été ouvrier pendant 10 ans de sa vie et qui passe, je sais pas, qui fait un autre métier, qui devient cadre ou je sais pas quoi d'autre, quelle trace il garde de son passé ouvrier, et est-ce que son nouveau métier est empli de cette identité de son origine? Et du coup, ça, c'est une question que je me pose pour pas mal de choses, en fait. Est-ce que même s'il est cadre, c'est toujours un ouvrier? Je sais pas.
Est-ce qu'il les respecte, en tout cas?
Est-ce qu'il... Je sais pas non plus. Mais oui, en tout cas...
Est-ce qu'il trahit ça, que ça, ça, ça...
Je sais pas, en tout cas, au-delà de la question du cirque et tout ça, c'est vrai que moi, c'est des questions que je me pose plus du tout. Peut-être que je devrais me les poser davantage, mais je me les pose plus parce qu'en fait, je veux faire du spectacle vivant et qui tire vers le cirque, la danse, le théâtre. Ce que j'ai envie, c'est de raconter quelque chose. Et si je peux me servir de la formation que j'ai eue, qui m'a donné forcément une manière de penser. Et c'est en ça que je me sens circassienne. Moi, c'est pas tant par les actes, c'est plus par ma manière de construire, de réfléchir quelque chose. Mais d'ailleurs, par exemple, je fais un mini parallèle, mais de plus en plus, moi, je trouve que la danse hip-hop, c'est du cirque. Mais de plus en plus. Parce que je trouve qu'il y a des enjeux qui sont hyper liés, ce mode de représentation, cette prise de risque. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de points communs avec la danse hip-hop et le cirque, et je pourrais presque dire que parfois la danse hip-hop, c'est du cirque, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là. Et les limites, elles sont très... Enfin, c'est très ambigu, c'est très fragile. Et sur des tas de choses dans la vie, et c'est vrai qu'on a tendance à recadrer parce que ça rassure aussi de savoir ce qu'on va voir, ça rassure de savoir ce qu'on fait. Ça rassure de savoir de quel sexe, ça rassure de savoir si la personne qui est en face de nous est homosexuelle ou hétérosexuelle. Enfin, ça nous rassure, en fait, de mettre des cadres partout. Alors, je sais pas, est-ce qu'on serait totalement perdu si on avait plus tout ça? Je sais pas. Mais j'ai bien envie de tenter.
Oui.
En fait, pour rebondir sur la question de la danse, parce que... Et peut-être en revenant aussi sur cette question du cadre et de cirque ou pas cirque, parce que en étant un peu proche par hasard de l'anthropologie et de l'ethnologie, moi personnellement j'ai vu les spectacles, je l'ai vécu un peu comme une invitation au voyage, déjà parce qu'il commence avec la mer et avec ce départ, avec ce chemin qui est là fait par les danseurs. Et ce n'est qu'une, c'est une narrative qui est racontée par un texte, mais qui est racontée par des poèmes, et qui est également racontée par le corps, par la danse. Sur cette narrative, en fait, en ne connaissant pas ni le réalisateur, ni, je ne connaissais pas du tout Nour. Alors, en me laissant aller par le spectacle, en fait, j'ai bien cru que Nour, c'était un personnage réel. J'ai bien cru que ce n'était pas fictice. Donc, en tant que spectatrice naïf, je me suis laissée un peu trahir ou un peu emmêlée par les acteurs. Et quand je l'ai découvert, j'étais un peu déçue, mais à la fois davantage impressionnée, parce qu'en effet, ils m'ont trompée. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Et il y a une chose quand même que j'ai remarqué, c'est que le texte, il parle beaucoup, mais à la fois ça peut, alors c'est une remarque tout à fait subjective, ça peut être un peu long si on ne rentre pas dans le texte, si on n'a pas envie de s'ouvrir à ce langage-là. Et je pense que la danse, elle compose avec le texte le moment l'expression la plus importante du spectacle. Et souvent, je voyais qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la danse, dans les danseurs. Et dans plusieurs moments, j'avais, moi, personnellement, un peu envie de vous dire, allez, alors, danser, quand est-ce qu'on va voir vraiment du break? Quand est-ce qu'on va vraiment voir les deux danseurs qui vont là faire la danse? J'avais vraiment envie de voir cette Nour qui allait un moment apparaître en scène par le corps, par la danse, et je voulais voir Nejma qui dansait. Mais vous voyez, et puis je le voyais mais d'une façon retenue, non, juste c'est une impression, non, mais,
ok, d'accord,
mais voilà, et je pense qu'il y a une tension en ça, et je pense que cette tension elle est efficace, et que c'est parce qu'il y a cette tension que vous ne lâchez pas le corps complètement que ça tient aussi le spectateur. Alors si vous voulez parler un peu de tout ça,
ok. Peut-être très simple, donc la danse de Nour. Hein, on a un public qui nous dit, Nour, elle veut être danseuse, elle fait du break, et c'est pas tout à fait du break. C'est ça que tu veux dire? D'accord, c'est...
Il y a quand même plein de moments où on... Je sais pas si c'est lâché ou pas, enfin, je sais pas, après c'est très... Mais où c'est engagé, en tout cas. C'est engagé pleinement, puisqu'on va à des... Peut-être pas des limites complètement, mais on va à des... Ouais, dans un engagement large, quoi. Et déployé physiquement. Après, sur le côté de la fiction, je pense pas que tu sois naïf, parce que nous, enfin, tu dis peut-être j'ai été prise, du coup vous m'avez un peu trompé, tout ça. On a, c'est qu'on a réussi notre coup quelque part quand ça se passe comme ça, puisqu'on aime que ça tremble sans arrêt entre la fiction et la réalité. On aime que, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, le fait de filmer, de rencontrer des personnes, de les filmer à partir du moment où ça s'inscrit dans le cadre cinématographique, on va rencontrer les personnes, on discute avec elles beaucoup, puis on les filme. Déjà là, on rentre dans la fiction, puisqu'il y a, enfin, dans la fiction ou dans la chose qui est pas la réalité en tout cas. Donc déjà là, en mettant en place ce dispositif de recueil d'informations, on va vers la fiction. En même temps, c'est très proche de la réalité, puisque mais en même temps, même là, quand je vous parle, si je commence à parler de ma vie, je vous présenterai une certaine facette de ce que je peux être dans ce contexte-là. Avec Nejma, à des moments, je pourrais me présenter un peu différemment, voire complètement différemment, aller à d'autres endroits. Donc, est-ce que toutes ces facettes-là font partie de la réalité, et en même temps, sont parfois aussi à la limite de quand on se raconte des fois en enjolivant un peu les choses, des fois peut-être même à l'inverse pour essayer de voilà. Donc ce jeu de la fiction et de la réalité, on travaille là-dessus, et en même temps tout le monde travaille là-dessus tout le temps, suivant à qui on se présente, comment on se présente. Et donc le cadre cinématographique est aussi un endroit de fiction, finalement. Même si c'est documentaire, même si c'est des documents qu'on récolte. Je me disais, par rapport aux mots qu'on utilise, qui étaient peut-être trop... Enfin, je dis trop, je me tourne vers vous, mais j'ai entendu ça, après c'est codé. C'est des mots venus des sciences humaines, donc des fois peut-être des mots un peu savants, que tout le monde peut-être ne comprend pas. Ceci dit, ben moi des fois c'est plein de mots dont Christophe me parle que je ne connais pas, et du coup que je découvre à son contact, et je pense que c'est pas grave de ne pas forcément comprendre tous les mots de Nour qui sont dits dans Nour, de ne pas les entendre tous. C'est même parfois des choix de mise en scène de un moment faire que la parole est noyée qu'on a du mal même à saisir les mots. Et comme le dit souvent Christophe, quand je vais voir un garagiste, il me parle le truc, j'y comprends rien du tout, et c'est pas pour ça que je trouve ça dangereux. C'est juste que c'est Chris, il vient de l'anthropologie, c'est son truc.
Je suis pas d'accord. Hein. Moi, je trouve ça très dangereux quand je comprends rien à ce que me dit mon garagiste.
Ah oui, c'est souvent dangereux. Ouais, bon. Disons que c'est pas grave,
si, parce que
t'arrives à repartir avec ta voiture.
C'est l'exemple même des savants médecins, etc. Quand on comprend pas un langage, c'est très dangereux pour moi. Mais bon.
Est-ce que dans le spectacle, où il y a le sens général, je pense que tout le monde le comprend, parce qu'il y a des enfants, des fois, de 7 ans qui viennent voir le spectacle et qui ressortent en nous en résumant le spectacle d'une phrase. Donc je pense que même si on comprend pas tous les détails dans le corps, vous comprenez pas tous les détails de ce que je fais, de toutes les techniques que j'applique pour faire ces demi-tours, demi-vrilles au trampoline. Et forcément, à cet endroit-là, la question se pose moins, parce que je sais pas pourquoi. Donc c'est après à chacun de faire son chemin. Je vais pas dire aux gens par contre si vous comprenez rien, mais faites pas l'effort d'aller ouvrir un dico et de voir tiens ce mot il me semble que je comprends globalement, mais j'aimerais creuser un peu plus. Allez-y, ça, forcément, mais justement ça vous permet de découvrir de nouvelles choses. Je trouve ça plutôt intéressant.
On peut dire alors la seule question c'est pas pourquoi on aurait à se poser la question en regardant un spectacle, est-ce que je dois comprendre ? Tu vois ? C'est-à-dire, c'est pas le problème de je comprends pas, mais à un moment donné, on peut se poser la question, merde, je dois comprendre quelque chose. C'est là où ça devient autre chose. C'est là où il y a un problème, tu vois ? C'est-à-dire que si on te regarde, et on pige pas tout ce qui se passe dans ton corps sur un saut au trampoline, mais néanmoins, on participe néanmoins. Il y a des choses qu'on a peut-être même pas vues, tu vois ? C'est surtout parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être pas vues. Mais dès l'instant où je me dis, si je te voyais faire un saut, mais qu'est-ce qu'il me dit là ? Si j'étais dans cet état-là, dès l'instant où tu es sur le trampoline, ça serait un peu étrange. J'étais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois, c'est peut-être là où il y aurait un petit problème. Alors, c'est vrai que parfois, des fois, dans les mots, mais à un moment donné, ils sont tellement musicaux.
C'est ça.
Il y en a tellement qu'effectivement, on accepte de dire, bon, voilà, tu vois, on dit, il vient de l'université, il en a peut-être marre, Christophe, là. Il envoie des trucs pour dire, il a entendu tout ça, il a entendu tous ces courants de sociologues, d'anthropologues, toutes ces définitions, il les envoie, et puis voilà, et nous, on suit ce parcours.
C'est aussi de la poésie, comme tu dis à un moment. C'est des mots, c'est des flots de mots qui des fois, quand il y a des livres sur la phénoménologie, comment il s'appelle je ne sais plus. Je lis 5 pages et je ne comprends rien. Mais c'est génial. Et du coup, je relis ces 5 pages, je les relis. Mais au départ, c'est des espèces de mots assemblés qui sonnent comme de la poésie. Et c'est pas grave pour le coup. Et faut se détendre avec ça. Autant il y a des mots, même si tu comprends pas chez le garagiste, tu ne te sens pas en disant putain, il m'a parlé d'un mot, j'ai pas compris, putain, c'est grave.
C'est juste qu'ici, tu sais, ici et ailleurs, mais particulièrement en France, on est un peu traumatisé, je te laisse juste la place après Nejma. On est un peu traumatisé aussi par la notion de culture. Je suis plus cultivé. Donc c'est un petit peu différent aussi quand même. Tu vois, dire que tu peux imaginer que effectivement certaines personnes face à certains mots puissent avoir un peu de recul quoi, un peu peur.
N'ayez pas peur.
Mais il faut bien leur expliquer, il faut bien.
Et c'est pour ça que je prends la parole pour faire la contre-proposition de Julien. Parce que même si je l'entends parler, je le connais en travaillant ensemble, et je suis d'accord évidemment avec ce qu'il dit, mais j'ai envie de dire le contraire aussi. de dire aussi que d'abord on est tous super différents, donc on n'est pas sensible à tout, donc c'est possible que pour quelqu'un ça parle pas du tout et qu'il comprenne pas, et c'est tout à, enfin je veux dire c'est tout autant, ça mérite d'être valorisé aussi. C'est pas parce qu'il comprend pas que enfin, je veux dire, peut-être il n'a pas compris, peut-être que pour lui, le spectacle n'était pas agencé de la bonne manière. Pour lui, c'est aussi possible. On n'est pas dans une perfection de ce qu'on fait. Et on n'est pas en train de dire que ce qu'on fait, c'est géniaux et génial et qu'il faut que tout le monde s'adapte à ça. Pas du tout. Pour certaines personnes, ça peut être raté. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a aucun problème pour ça. Et c'est vrai que sur les mots et tout, moi, c'est pareil. Il y a des tas de trucs que je ne comprends pas dans le spectacle et pourtant, je le fais. Alors, c'est vrai que ça me pousse à aller chercher, du coup, des définitions et à comprendre ce qu'on fait pour savoir ce dont on parle. Mais moi, ma propre mère a pas aimé le spectacle parce qu'il y avait trop de textes et qu'elle trouvait ça super intello, prout-prout, et qu'elle disait, mais pourquoi le corps peut pas parler plus, le corps pourrait exprimer tellement de choses davantage que les mots, etc. Et elle a raison à sa manière. Enfin, je veux dire que chaque sensation de tout le monde va... est juste... Et donc juste pour finir ça, bien sûr que le spectacle aurait pu être bien plus dansé, pour répondre aussi à la danse. Et pour répondre aussi à la danse, c'est pas du break vraiment qu'on fait. Le break, c'est de la danse au sol, c'est des actes. Il y a un peu de ça, mais en tout cas pour ma part, c'est plus de la danse debout. Peut-être Julien, il fait un petit mélange à sa manière. Et effectivement, on pourrait faire un spectacle sans parole, avec juste. Mais ça, c'est le parti pris après de la mise en scène, et puis des acteurs, et puis des gens qui ont écrit le projet. Et on parle encore d'origine et de parcours, forcément. Le parcours influe sur la manière dont tu vas écrire un spectacle. Mais on pourrait faire un our entièrement, peut-être en cirque et en danse, hein, sans texte.
Raph, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je suis toujours là. et de ce que j'entends, en fait, voilà, ça me faisait penser. que j'ai pas vu le spectacle de Juju et de Nejma, mais en plus des choses qui ont été dites sur le fait de mettre au nom voilà, de dire c'est du cirque ou pas du cirque, comme on disait tout à l'heure, ou là est-ce qu'on comprend ou on comprend pas dans un spectacle, et ça me faisait penser toujours dans la même chose, nous avec un autre groupe de gens on fait des expéditions parfois dans d'autres pays. On est allé en Amazonie, on est allé au Vietnam présenter des spectacles, et c'est des cultures complètement différentes qui eux ils n'ont pas du tout. C'est pas un public qui va voir des spectacles. Ils ont même pas la télé. Ou au Vietnam, c'est vraiment un autre type de spectacle. Donc nous, on arrive avec un ovni là-bas et qu'on rencontre ces gens. Et eux, ils comprennent pas ce qu'on est en train de faire, mais ils sont seulement dans la sensation. On voit quelque chose et voilà, ils s'amusent avec ça, de voir où ce qu'il y a. Ça me fait penser aussi parce que moi j'aime beaucoup la technique de cirque. Et parfois, justement, j'ai l'impression que de nos jours, comme la société elle a évolué, j'ai l'impression que le public aussi, il est beaucoup plus intelligent. Ils sont pas seulement là à essayer de voir quelque chose. Ils prennent du plaisir avec ce qu'on voit. Donc, on va pas voir un spectacle et dire voilà, c'est un spectacle. Je sais pas de quoi. Je vois un spectacle et je prends du plaisir ou pas, mais avec ce qu'on voit, on a envie de comprendre ou de savoir si c'est du cirque, parce que le public, il est plus intelligent. Maintenant, il a déjà vu des choses, beaucoup de choses, avec la télé aussi. Ça nous, voilà. Donc moi, ça me fait en tout cas ça, que le public il est plus exigeant de savoir qu'est-ce qu'il voit et est-ce qu'il comprend ou pas, ou de seulement arriver. Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. C'est pas bien que le public il comprend pas, ou alors qu'il essaie de savoir si c'est du cirque. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. On ne sait pas où on va maintenant. Les artistes, le cirque a évolué d'une certaine manière, et puis. Pas forcément, c'est seulement de la technique, c'est pour moi beaucoup plus ouvert, c'est du spectacle, le cirque nouveau en tout cas. Et parfois dans ces spectacles là la manière d'expression des artistes, voilà, parfois c'est pas hyper compréhensible, on n'essaye pas de raconter quelque chose, mais ça, on cherche la sensation. Mais le public aussi parfois ils ont besoin d'avoir un truc beaucoup plus clair, de dire non, moi j'ai besoin de comprendre tout ce qui est en train de se passer, de ce que je vois. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Lou, je sais pas si tu veux dire quelque chose.
J'allais dire que je ne sais pas si c'est exactement une question de que le public devient plus intelligent, parce que je ne sais pas si c'est ça l'intelligence, mais en tout cas, je pense que c'est une question de personnalité, d'ouverture à l'heure de, enfin, au moment de voir un spectacle, ou tout simplement, je veux dire, à tout moment. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème de rien comprendre. Mais par exemple, je regarde un film et je comprends rien au début et ça me pose pas de problème parce que je me dis à la fin peut-être je vais comprendre quelque chose, ou je dois le comprendre à la fin. Ça me pose pas de problème. Mais bon, à partir du moment que par exemple moi le français c'est pas ma langue maternelle, donc quand j'ai dû apprendre à parler français, il y avait des tas de choses que je comprenais pas dans une discussion et je pouvais en discuter quand même avec les gens, donc j'avais pas besoin de tout comprendre. Mais je pense que c'est plus un état. Plus qu'une question d'intelligence, c'est juste un état de se laisser emporter, de se laisser de faire confiance que si on ne comprend pas, bah, on ressent des choses quand même. On n'a pas besoin de tout comprendre.
Bon, on va peut-être pas tarder à finir, parce que moi j'ai un rendez-vous, on a dépassé le cadre là. Et ça arrive pas toujours comme ça, hein, malheureusement. Je regrette, on aurait pu continuer. J'ai pris rendez-vous en me disant, oh, bah, ça sera fini à 19h15. Juste pour finir, je vais juste m'adresser à Nejma, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Je voulais juste savoir comment tu avais travaillé la petite danse, parce que justement, comme tu évoquais une histoire de danse, comment tu avais. J'appelle ça la petite danse, parce qu'elle est très précieuse et très très jolie. Et je crois que c'est au moment où il y a l'histoire de la grand-mère. Ok. Est-ce que tu veux juste en parler un peu? Parce que j'adore ce petit moment. Parce qu'elle est rare, cette danse.
En fait, pour parler du travail chorégraphique, même d'une manière globale sur tout le spectacle, avec Julien, même si on a écrit nos propres chorégraphies, on les a écrites chacun séparément ou ensemble quand il s'agissait d'un duo, elle a quand même été, elle a existé quand même à travers un cadre qui était très fort, qui était celui du metteur en scène, de Christophe, qui voulait travailler, qui donnait un cadre super précis avec des directions, qu'est-ce qu'il voulait ressentir, et même si à l'intérieur, nous, on était libre d'écrire ça. Ça m'a beaucoup aidée. Alors c'est le grand lieu commun qui dit que le cadre permet cette liberté à l'intérieur, mais c'est tout à fait vrai. Et du coup, cette danse, Christophe avait envie de travailler entre la tradition, une espèce de gestuelle qui pourrait transparaître de quelque chose de traditionnel, de la terre, du bled, quoi, de la maison, et puis d'une danse plutôt actuelle, mais ça aurait pu être autre chose que le hip-hop, ça aurait pu être la danse moderne jazz. Mais bon, là, il se trouve que c'est ça qu'on traite. Et donc, comment on peut basculer de l'un à l'autre, quoi, c'est-à-dire comment on se laisse submerger par l'appel de l'origine, et puis en même temps, on est dans une espèce de monde contemporain où c'est cette danse-là qui existe et qui permet d'exprimer ça. Donc ça, c'était des cadres qui étaient donnés par la mise en scène. Et puis, on a travaillé en aller-retour. Il m'a demandé de créer une petite chorégraphie. Non, ça va bien, ça va pas. Ah tiens, là, on va travailler. Et du coup, les moments traditionnels, c'est plus un mouvement répété qui est juste en boucle, qui peut raconter une forme de transe vite fait. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que ça s'est construit. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens de théâtre ou de la mise en scène ou peu importe peuvent pas diriger de la danse. Et au contraire, presque, moi, c'est là que j'ai fait les plus belles expériences, en fait, d'écriture chorégraphique. C'est avec des gens qui étaient pas de la danse et qui dirigeaient ça. Parce qu'ils apportaient justement un regard qui était différent, qui était pas un regard technique. Donc, qui s'arrêtait pas sur la forme et qui allait vraiment chercher au fond. Et c'est là que je trouve qu'on dépasse la question de la danse au sens juste du joli, quoi. Voilà, pour ça, et puis pour tout le reste, ça a été un peu comme ça aussi, en fait.
Oui. Non, mais je sais pas trop quoi dire. On a déjà dit plein de choses, on est parti un peu dans tous les sens, mais juste pour dire que au général, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de... Non, je sais même pas si je vais dire ça. Enfin oui, la place du cirque, hein, du quoi, des corps circassiens, des corps acrobates, c'est de... En danse, ça fait longtemps que ça existe, que c'est comme ça qu'il y a dans les ballets classiques même, il y a cette mise au service du corps à travers un récit, enfin vers un récit. Et c'est ça qui nous a quand même réunis depuis le départ, d'essayer de comment je peux, moi, circassien, avec mes qualités, moi, circassien. Me mettre au service un peu voilà, d'un récit, mais d'un récit qu'on écrit là, enfin Christophe en l'occurrence a écrit plus ou moins avant, plus ou moins pendant, et avec tous les collectages qu'on a pu faire, tous les entretiens qu'on a pu faire, comment considérer ces corps de circassiens, ces techniques de circassiens comme des gens depuis très longtemps ont pu le faire avant nous dans la danse ou des choses comme ça, se mettre, comment ça peut être au service, comment ça peut transmettre du coup des émotions, transmettre de la chaleur, et on parlait aussi des qualités des corps circassiens, que c'est des choses un peu difficiles à définir puisque il y a tellement de disciplines qu'il y a tellement il y a des corps différents, mais il y a une chose du fait, parce qu'on était tous les trois au départ, et donc moi j'avais envie d'utiliser ce que je savais faire, mais qui collait bien dans cette histoire de tenir debout, se relever, tenir debout, la chute, le rapport au sol, le rapport à l'engagement physique, le rapport à qu'il y a chez les circassiens, on trouve, qui nous touche et qui rentre bien, qui est une belle métaphore, le trampoline, mais aussi tous les corps engagés. Sur d'autres spectacles, on peut peut-être travailler avec des gens qui font de la sangle. Ces corps un peu des fois maltraités ou un peu, il y a un côté brut et engagé en tout cas dans le cirque qui nous touche. Bang.
Une belle violence. Oui, voilà. Le cirque c'est une pulsion violente.
Une épreuve.
On va terminer comme ça, sèchement là-dessus. Merci à tout le monde. Merci bien.
Merci à toi.